Il est 14h03, bienvenue chez vous à Boulevard 102.1, bienvenue chez nous dans le retour. Il nous annonçait de la pluie, ben on a de la pluie, c'est 15 degrés présentement à Québec. Le mercure ne bougera plus, il y a des rafales de vent jusqu'à 50 km/h. Entre 15 et 25 mm de pluie pour la journée, entre 30 et 40 mm supplémentaires pour cette nuit. Il y a un risque d'orage tôt en soirée. Les rafales de vent demeurent pour l'essentiel de la nuit. Avec un mercure qui ne bougera pas beaucoup, le minimum est à 13 degrés. Les averses se poursuivent demain, les rafales de vent également. Avec un maximum de 20 degrés et malheureusement, ben, pour la fin de semaine, ça ne s'annonce pas beaucoup mieux. De la pluie samedi, maximum de 16 degrés et dimanche, 60 % les probabilités d'averse avec un maximum de 20 degrés. Pour rejoindre la gang en ville, ça c'est nous autres, le 418-971-1021 par texto, par téléphone, c'est le 418-780-1021. Vous pouvez nous écrire directement sur le Messenger de Boulevard et si vous voulez rejoindre Mathias Turcotte, notre journaliste terrain, terrain mouillé aujourd'hui, mais journaliste terrain quand même, il est de retour de vacances, citoyen à blvd.fm, c'est l'adresse pour se rendre rapidement. Pour nous écouter en direct, sous la pluie, où que vous soyez dans l'univers, n'oubliez pas de télécharger l'application Boulevard, elle est gratuite. En un clic, vous êtes en direct. En deux clics, vous nous écoutez en différé. Vous faites du rattrapage. D'ailleurs, dans les prochaines minutes, on aura l'honneur de parler à une légende du hockey. On aura l'honneur de parler à mon capitaine. Mm-hmm. On aura l'honneur de parler à quelqu'un qui s'est fait annoncer dans les dernières heures que son numéro sera retiré dans l'uniforme des Bruins de Boston. On devrait parler dans une dizaine de minutes à Patrice Bergeron. Et Audrey me l'a confirmé, ça doit faire 5 minutes gros max. Fait que là, je shake. Je suis content d'avoir ma casquette des Bruins aujourd'hui sur la tête. Et je me prépare mentalement à parler à mon capitaine, le 37 qui s'en va dans les hauteurs du TD Garden. Véro qui me montrait le vidéo de la façon dont on l'a annoncé à Patrice Bergeron. Là, c'est rendu qu'on fait ça beaucoup dans la Ligue nationale de hockey. On, fait des insolences d'une caméra avec des légendes. Là.
Oh, mais je trouve ça tellement beau quand on voit plusieurs générations embarquées dans ces trips-là. Puis tu vois à quel point c'est authentique parce que Patrice Bergeron, c'est pas juste un grand joueur, c'est un grand homme aussi. Puis tu vois que tout le monde le reconnaît. Là.
Et qui a l'air profondément gentil.
Ben, les gens qui aiment le Canadien haïssent les Bruins de Boston. Ils haïssent tous les joueurs des Bruins de Boston, de l'histoire des Bruins de Boston.
Sauf Patrice.
Sauf un. C'est Patrice Bergeron. Puis c'est comme la phrase, puis probablement qu'il l'a entendu souvent quand il vient au Québec. J'haïs ton équipe, mais toi, je suis pas capable.
Ben oui.
Tu sais, toi, je suis pas capable de t'haïr. J'essaierais bien, là, mais je peux.
Un vrai fin.
Je peux juste pas. Oui, il a de l'air d'un good guy. Là, il réside à Boston avec sa petite famille encore. Ouais. Je sais qu'il est dans l'entourage des Bruins encore. Puis je pense qu'il était intéressé à le ramener de façon plus définitive et plus concrète dans l'organisation. Fait qu'on va profiter des minutes qu'il va nous accorder pour lui poser une couple de questions. Comment il trouve ça, la retraite? Il y a des joueurs de hockey qui ont de la misère les premières années à s'ajuster. J'imagine avec plein de jeunes enfants autour de lui, ça doit être un petit peu moins pire. Je pense qu'il manque pas d'ouvrage d'une façon ou d'une autre. Ouais, je pense que vous avez raison. Raymond Bourque échappe peut-être aussi à la haine de la rivalité entre les Bruins et le Canadien, entre les Bruins et les Nordiques. Mais je pense que Patrice Bergeron a atteint une hauteur qui est vraiment là, unique. Fait que c'est des légendes des Bruins, Zdeno Chara et plusieurs numéros qui sont déjà retirés. Les Cam Neely, les Johnny Busick de ce monde qui ont surpris un peu Patrice pour lui annoncer que lui aussi, son numéro s'en allait dans les hauteurs. Tu sais comment ça marche, Audrey? T'as plusieurs façons d'être honoré dans la Ligue nationale de hockey. Ton équipe t'honore, ils prennent ton numéro, ils le mettent au plafond, puis il n'y a plus personne qui a le droit de le porter.
J'ai une question tellement niaiseuse, là, mais on se l'est posé avec Antonine Hordon ce matin. Il va pas manquer de numéro à un moment donné?
Pour le Canadien, la question s'est légitimement posée parce que c'est un club qui a plus, qui a plus d'un siècle d'histoire. Mm-hmm. Puis moi, je pense qu'à un moment donné, tu vas permettre à des gens d'avoir le numéro 100 ou le numéro 101. Ils vont peut-être en débloquer d'autres, là.
C'est ça prend de la place, pareil, sur un chandail, hein?
Mais c'est ça.
Ben, c'est pas si pire. Quand tu regardes les noms composés, à cette heure-là, t'es capable de vivre avec trois chiffres. Ça me rappelle le débat qu'on a eu sur le prix de l'essence quand on a atteint le dollar pour la première fois. Hein? Ils pourront pas le mettre sur les affiches. Ouais, oui, ils ont trouvé un moyen, là. On s'est arrangé.
Combien le Canadien a de numéros retirés?
Il doit en avoir une quinzaine.
C'est exactement ça.
C'est ça, hein?
C'est 15 numéros, on dit 15 numéros en l'honneur de 18 joueurs légendaires.
Ouais. Puis
le 7, le 9, le 4, le 12, le 10, le 16, le 1, le 2, le 3, le 5.
Peux-tu vérifier combien de numéros sont retirés maintenant pour toutes les équipes?
OK, je vais regarder ça.
Il y en a 3, 2 maximum. Ça, c'est le deuxième, tu sais, honneur que tu peux avoir à la grandeur de la Ligue nationale. Ça veut dire qu'il n'y a plus une équipe qui a le droit de porter ton numéro, là. Je pense qu'à le 99...
C'est-tu le plus gros honneur?
Le plus gros honneur, normalement, c'est d'être intronisé au temple de la renommée hockey. Mais le plus gros honneur, c'est quand toutes les équipes disent « on porte plus ton numéro » parce qu'au temple de la renommée, ils sont une maudite gang. Mm. Mais il y en a combien des joueurs de la Ligue nationale?
Il y a 187 numéros retirés et il oui. y en a un seul qui est retiré pour toutes les équipes.
C'est Maurice Richard ou Wayne Gretzky?
C'est Wayne Gretzky. Le 99 ne peut pas être porté dans aucune des équipes de la Ligue nationale. Ouais.
Mais ouais, ça veut dire, mettons, que pour un Patrice Bergeron, les autres équipes pourraient porter le 37,
mais
pas les Bruins.
Exact. Puis, tu sais, Patrice Bergeron va être intronisé au temple de la renommée. Là, je veux dire, c'est une formalité.
J'ai d'autres stats.
Ah, ouais, donc.
Donc, le Canadien a donc 15 numéros retirés. Quelle équipe vient ensuite? Vous autres aussi, ça fait longtemps.
Ça doit être les Maple Leafs.
C'est les Leafs.
Ouais.
Ensuite de ça.
Les Rangers.
Les Leafs en ont 13. Les Bruins en ont 12.
OK. Donc 12 avec Patrice?
Sans Patrice, je crois.
Fait que là, ils sont rendus à 13 aussi.
Ils vont être rendus à 13. Okay. Puis viennent ensuite de ça les Rangers, les Red Wings et les Blackhawks qui sont à égalité à 8. Puis après ça, ben, on drop.
C'est le 14e numéro retiré par les Bruins parce que dans tes chiffres, il n'y a pas Chara non plus. Avec le numéro 33. Donc, Patrice devient le 14e joueur des Bruins à voir son numéro retiré. Permettez-moi de partager quelques statistiques. Choix de deuxième tour des Bruins en 2003. Faites juste penser à ça deux secondes. Tout le monde, en première ronde, une ronde, c'est long, là. Mm-hmm. Une ronde de repêchage, là, c'est vraiment long.
Toutes les équipes passent.
Tout le monde a passé outre Patrice Bergeron. Et en deuxième ronde de mémoire, et là, les spécialistes de sport qui nous écoutent vont peut-être pouvoir m'aider. En deuxième ronde, le Canadien, ils ont pris le deuxième joueur, puis ils n'ont pas pris Patrice Bergeron.
C'est qui?
C'est ça que je veux savoir. Parce que, de mémoire, c'est pas un joueur qui a fait grand-chose, là. Dans la Ligue nationale. Les plus érudits de nos auditeurs de sport, ils vont sûrement être en mesure de me dire c'est qui que le Canadien a repêché ou le nom des deux joueurs que le Canadien a repêché en 2003 en laissant aller les services de Patrice Bergeron. Bergeron qui a fait le saut dans la LNH à 18 ans. En quelle année on a commencé à travailler ensemble à Radio
2005.
X? 2005.
J'ai vérifié tantôt pour être sûr. Parce que c'est dans les premières années où il était dans l'alignement de départ des Bruins qu'on l'a rencontré.
Je te pose la question parce que pas longtemps après son repêchage par les Bruins, on l'a reçu en entrevue.
Oui.
C'est Dominique Moret qui l'avait booké. C'était encore un ado, là. Je veux dire, il n'a pas appelé encore. Il y avait encore des boutons, là. Je veux dire, il était tout petit. Il était tout petit.
Puis il là, était frêle, mais il était fucking grand.
Ouais. Écoute, c'est incroyable. On pensait pas que ce joueur-là allait avoir cet avenir-là au sein de la Ligue nationale.
Strip-tu depuis les débuts?
J'admire depuis que je le vois évoluer dans la Ligue nationale, mais quand je suis devenu un fan des Bruins de Boston, puis que je suis allé vivre, entre autres, le match numéro 7 entre les Maple Leafs de Toronto puis les Bruins, et que les Bruins perdaient 4-1 puis qu'il restait 10 minutes, puis que j'ai vu Patrice Bergeron scorer le but égalisateur dans la dernière minute, Et le but en prolongation qui a éliminé les
T'es
Leafs.
T'es tombé en amour.
Là, je suis tombé en amour. Ça, c'est mon capitaine. Il va en avoir d'autres. Là, c'est pas lui, mais c'est mon capitaine, c'est Patrice Bergeron.
Il était là tellement brièvement, justement, à cause de Chara. C'était Andrei Kostitin. On est allé chercher en première ronde,
encore,
au total.
C'est encore plus drôle. Ils ont repêché Kostitin avant Bergeron.
Pire que... Puis Bergeron, il a été repêché en troisième ronde, tu disais?
Deuxième ronde.
Deuxième ronde. Parce qu'en deuxième ronde, 40e au total, c'est un certain Corey... Urquhart?
Ouais, c'est ça. Je vois son nom passer, le Corey Urquhart, peut-être.
Suivi en deuxième ronde toujours de Maxime Lapierre au 61e rang.
Tu sais, c'est relatif le repêchage. Hein? C'est dans des statistiques comme ça qu'on le réalise. Donc, Bergeron qui a fait le saut dans la Ligue nationale à 18 ans, champion de la Coupe Stanley en 2011. L'attaquant vedette d'ancienne Lorette a disputé 19 saisons dans l'uniforme des Bruins, 1040 points en 1294 matchs. C'est le troisième buteur de l'histoire des Bruins avec 427 buts derrière Johnny Beusick et Phil Esposito. Au quatrième rang des passeurs, 613 passes. Au troisième rang des pointeurs, il n'y a que Beusick et Brad Marchand qui ont inscrit plus de buts gagnants que lui. Beusick en a 88, Marchand en a 82, Patrice Bergeron en a 81. Puis ça, c'est les prouesses offensives de Patrice Bergeron. Mais ce que les analystes, ce que les spécialistes saluent le plus, c'est son jeu défensif. 6 fois, il a gagné le trophée Selkie, qui est remis au meilleur attaquant défensif de la Ligue nationale. Un moment donné, c'est un trophée qui va porter le nom de Patrice Bergeron. Personne n'a fait mieux dans l'histoire du circuit. Il a été finaliste pour le Selkie 12 années de suite. C'est du jamais
c'est
vu.
C'est incroyable.
C'est le 14e numéro retiré par les Bruins après le 33 de Zdeno Chara, le 22 de Willie O'Ree, le 16 de Rick Middleton, le 8 celui-là, vous vous en souvenez, de Cam Neely, le 24 de Terry O'Reilly, le 77 de Raymond Bourque, évidemment, le 7 de Phil Esposito, le 9 de Johnny Beusick, le 4 de la légende Bobby Orr, le 15 de Mike Schmidt, le 2 de, connais-tu Eddie Shore? Eddie Shore. Et le 5 de Dick Clapper, le numéro 3 également n'est plus disponible, de Lionel Hitchman. Donc, la prochaine étape pour Patrice Bergeron, vraisemblablement, ça va être son intronisation au Temple de la renommée à ce stade-ci. Ce n'est qu'une formalité.
T'as-tu l'impression que tu peux avoir la prétention de savoir que tu vas te ramasser là?
Oui.
Ouais?
Il n'y aura jamais l'humilité de te dire oui, je vais au Temple de la...
Mais ce n'est pas tous les joueurs qui ont eu leur numéro retiré qui sont au Temple de la renommée ou automatiquement tu finis.
Pas nécessairement. C'est pas... Je pense que l'ordre normal des choses, c'est ton équipe d'abord... Ah non, je dis n'importe quoi. Je pense que c'est plus facile de rentrer au Temple de la renommée que d'avoir ton numéro suspendu dans les hauteurs. Oui, je pense que oui.
OK, fait que la plus grosse affaire, c'est vraiment le numéro.
Je pense que oui.
Aïe.
À moins que je me trompe, parce que dans ma tête...
Bon, il demandera.
Dans ma tête, il y a beaucoup plus de joueurs au Temple de la renommée qu'il y a de numéros retirés dans la Ligue nationale. Ça se peut que je me trompe, là. Si il y a des tripeux de sport là, qui trouvent que je dis n'importe quoi, là, gênez-vous pas, là, vous pouvez me reprendre. J'ai pas la prétention d'avoir raison, mais pas pantoute.
Non, mais je suis curieuse de savoir comment ça fonctionne, parce que c'est quand même un honneur, là.
Internet nous dit que le Temple de la renommée, c'est l'élite mondiale de hockey. Le retrait, c'est par équipe, par franchise, puis qu'il y a des joueurs avec un numéro retiré qui sont absents du Temple.
On s'en va en ligne. Bon, ben ça fait 15 minutes qu'on parle dans son dos. Rendu là, on est aussi bien de l'amener avec nous autres en onde. On va vérifier si c'est bien lui. Celui que j'ai toujours appelé mon capitaine, Patrice Bergeron, es-tu là?
Oui, c'est moi, ça va bien.
Mon Dieu Seigneur, salut Patrice, comment ça va?
Ça va bien, merci, toi aussi Denis.
Hey Patrice, super content de te parler. D'abord, félicitations pour un honneur pleinement mérité. Ton numéro s'en va dans les hauteurs du TD Garden, il n'y a plus personne qui va pouvoir le porter. Patrice, raconte-nous comment ils t'ont annoncé ça, parce qu'on vient de regarder le vidéo avant de rentrer en onde, puis ils ont réussi à te faire un coup pas pire chez vous, là.
Ouais, effectivement, ça a été tout un coup monté, là, de la part de plusieurs personnes. Disons que ça a commencé un petit peu avec Zdeno Chara, qui m'a appelé en me demandant, parce que si je recule, là, pour les événements, pour vous aider pour l'histoire, dans le fond, il fait un match, un peu un match de dernier tour, là, ouais, pour sa carrière au mois d'août. Et puis, c'est en Slovaquie, donc j'y participe. Je serai là pour son match. Donc, il m'a appelé en me disant, écoute, on aimerait ça faire de la promotion pour le match. On a annoncé que tu allais au match et que les gens sont excités. Donc, on aimerait que tu puisses leur faire une vidéo. Mais on veut que la qualité du vidéo soit mieux que sur un téléphone. Donc, on va envoyer l'équipe des Bruins, l'équipe dans le fond médiatique des Bruins pour te filmer. Puis en même temps, ils vont en profiter pour faire un topo un peu sur le... Parce que c'était le 15 juin 2026 que j'ai fait cette vidéo-là. Okay. Et si on recule de 15 ans, en 2011, c'est là qu'on a gagné la Coupe cette année. Donc, ils voulaient faire une vidéo aussi par rapport aux 15 ans de la conquête de la Coupe Stanley. Donc, pour moi, tout marchait, si tu veux, dans la vidéo. Donc, tout fitait. Donc, j'ai évidemment dit oui. Et je me suis rendu compte après que ma conjointe était aussi là-dedans dans l'histoire. Donc, oh, ce qui est arrivé, c'est que on a fait une vidéo. J'ai commencé à parler justement de la conquête de la Coupe Stanley. Et puis là, on cogne à la porte. La première personne qui cogne, c'est Johnny Busick, évidemment une légende des Bruins, que son chandail est retiré. Mais il me dit, écoute, je fais le tour des gars qui sont dans la région encore, puis c'est le 15e anniversaire des Bruins, donc on voulait juste te donner un petit cadeau. C'était un drapeau, dans le fond, avec mon nom dessus, que les gens utilisaient à l'époque de 2011. Donc, ouais, je trouvais que c'était un très beau cadeau, un beau souvenir. Les enfants étaient très excités, mais tant plus. Donc, je retourne à mon entrevue. Et disons une dizaine de minutes plus tard, là c'est là que la vraie histoire est arrivée, ou la vraie surprise, avec Cam Neely, Charlie Jacobs qui est le propriétaire des Bruins, mais aussi Rick Middleton et Terry Riley, tous des joueurs qui sont évidemment retirés, qui sont des légendes des Bruins, et leurs chandails sont au plafond du TD Garden. Donc j'ai un petit peu commencé à comprendre un peu plus qu'est-ce qui se passait. C'est là qu'ils m'ont annoncé là la merveilleuse nouvelle.
Est-ce que tu en sais plus sur comment ça va se passer et quand ça va se passer, Patrice?
J'ai pas encore la date, parce que l'horaire de la saison prochaine n'est pas encore sorti, mais c'est sûr que on va en discuter dans les prochaines semaines pour avoir une date pour pouvoir le dire à tous.
De quoi t'es le plus fier dans ta carrière dans la Ligue nationale de hockey? C'est-tu le fait d'avoir gagné une Coupe Stanley? C'est-tu le fait d'avoir été le capitaine de l'organisation des Bruins? C'est-tu d'avoir été un lifer pour les Bruins de Boston? Parce que les amateurs de hockey ont tellement de respect pour ça maintenant, dans le monde dans lequel on vit, des joueurs qui décident de se dédier à une seule organisation à partir du moment où ils sont repêchés. J'aimerais savoir ta perspective là-dessus.
Ben, Denis, tous les exemples que tu m'as dit, dans le fond, que tu as énumérés, sont quand même des bonnes raisons, des choses que oui, c'est vrai que je suis fier, mais mettons, si j'avais à choisir, je pense que ça serait vraiment les amitiés, puis les liens que j'ai créés avec mes coéquipiers, avec l'organisation, avec les gens autour de la ville, dans le fond, des bons amis qui vont être pour la vie, si on veut. Puis ça, ces choses-là, c'est ces souvenirs-là que moi, je vais... qui sont gravés sur mon cœur, que je vais amener avec moi pour toujours. Donc, c'est sûr que ce côté-là, c'est le côté un peu sentimental, si on veut, qu'on s'ennuie le plus du hockey. C'est la camaraderie, c'est le fun qu'on a autour, tu sais, de juste la game du hockey, si on veut, en concret. Donc, c'est sûr que ce côté-là, je vais m'ennuyer. Mais le fait d'avoir été dans l'organisation toute ma carrière, c'est sûr que c'est aussi une grande fierté pour moi.
C'est beau de vous entendre parler les uns des autres. Tu sais à quel point Brad Marchand est un joueur détesté et détestable au Québec, mais quand il parle de toi, il n'y a pas personne qui est capable de l'haïr.
Ben, en fait, je pense que vous apprécieriez vraiment quel genre de personne qui est là. Si vous aviez la chance de parler, justement, votre opinion changerait, j'en suis certain.
Zdeno Chara, qui fait encore des marathons du côté de Boston et à travers le monde, est-ce que ça a été un modèle et un mentor pour toi? Ça a-tu été ta plus grande influence au sein des Bruins?
Bien, c'est sûr. Zdeno est arrivé, j'avais 21 ans, donc j'étais encore très jeune. J'étais au début de ma carrière, donc c'est sûr que de pouvoir apprendre de lui, de voir un petit peu sa façon de gérer les choses en tant que leader, de voir sa préparation sur glace, mais aussi à l'extérieur, sa discipline, tout ça, ça m'a aidé énormément. J'ai pris beaucoup de notes, si on veut, mentales, qui m'ont aidé à mettre ça à ma façon pour moi, pour m'aider. Mais je pense que ce qui a été le plus fun, c'est l'espèce de... de transition qui s'est passée de mentor à ami. Mm-hmm. Maintenant, on est vraiment des très bons amis, puis qu'on est on a réussi à leader ensemble, à être des leaders, puis un peu à chacun utiliser nos forces de la bonne façon pour aider le bien de l'équipe. Donc ça, c'est toujours été des choses que je suis très fier.
La vie est belle à Boston, Patrice, avec la famille. Est-ce qu'on s'ennuie du hockey? Est-ce qu'on en regarde beaucoup quand on joue plus? As-tu suivi les séries un peu?
Ouais, j'ai suivi les séries. Je pense que, en tout cas, ma conjointe me faisait remarquer que j'ai plus suivi les séries cette année que les dernières années. Donc okay. Peut-être c'est le fait qu'il y a un petit peu un décrochement qui se fait. Puis je suis plus... Je suis moins dedans, si on veut. On va toujours s'ennuyer du hockey un peu, ben, surtout le côté que j'ai parlé tantôt, la camaraderie, les gars, les amitiés, puis évidemment le côté compétitif, là, l'intensité du match. Ce côté-là, c'est sûr que tu vas toujours t'en ennuyer. Je pense que je vais avoir de la misère à vraiment décrocher complètement, mais je suis bien, oui, très bien avec ma décision, je suis bien avec la famille, puis je regarde en avant.
Quand d'ailleurs tu as porté les couleurs des Bruins aussi longtemps, est-ce que c'est l'équipe que tu suis le plus ou justement tu as assez, mettons, de décalage pour dire hey, « moi, cette année, telle équipe, j'ai trouvé ça fun de la suivre? »
Bien, tu sais, je vais t'avouer que le hockey en général, pour moi, ça va toujours être un sport merveilleux que j'adore regarder, peu importe qui joue, mais c'est sûr j'ai une attention particulière avec les Bruins, puis c'est sûr que je veux toujours que ce soit eux qui gagnent les matchs lorsque je les regarde, ça c'est certain. Le sentiment d'appartenance est trop fort à l'organisation pour que maintenant je puisse vraiment prendre pour une autre équipe, mais il reste que j'apprécie encore le hockey, puis j'apprécie encore les talents qui ressortent, des jeunes talents qui deviennent maintenant des joueurs assez exceptionnels dans le monde du hockey, dans la Ligue nationale en général. Donc ça, je suis capable quand même d'avoir un sentiment, un regard juste sur ces choses-là, c'est sûr.
Sens-tu l'appel à occuper un poste d'importance à l'intérieur de l'organisation des Bruins de Boston dans les prochaines années? Je pense que tu es consultant présentement, si je ne m'abuse. Est-ce que tu rencontres les joueurs dans le vestiaire? Qu'est-ce que tu fais par rapport aux Bruins actuellement? Puis qu'est-ce que tu aspires à faire dans les prochaines années?
Ouais, pour l'instant, je suis pas encore officiel, je suis pas encore un consultant, j'ai pas encore de titre. Okay. Je viens de temps en temps juste aider un peu à temps perdu parce que mes priorités ont changé évidemment. Donc la famille, je suis à la maison, je m'occupe des enfants, je m'occupe des activités, je suis là pour les matchs de hockey, les matchs de soccer, les tournois de gymnastique ou peu importe. Donc pour l'instant, c'est vraiment là la priorité. Puis quand je m'implique dans quelque chose, je veux le faire à fond. Donc peut-être éventuellement, ça va être une nouvelle étape pour moi, mais on n'est pas encore rendu là, donc c'est à suivre, mais c'est sûr que, comme j'ai dit, il y a un grand sentiment d'appartenance avec les Bruins, donc peut-être un jour, je ferme pas la porte, c'est sûr, mais pour l'instant, c'est la famille, puis c'est le Uber avec les enfants, j'essaie de les envoyer à gauche puis à droite pour leurs activités, puis je m'amuse là-dedans.
Qu'est-ce qui est le plus dur pour Patrice Bergeron, couvrir Sidney Crosby pendant une grosse game ou gérer 4 enfants à la maison?
c'est une très bonne question. Je t'avoue que c'est presque égal les deux. C'est autant de gérance les deux. Puis, c'est dur à choisir.
Tu reviens-tu à Québec un peu une fois de temps en temps?
Oui, certainement. On vient voir la famille et les amis là, pour... certaines périodes, dans le temps des fêtes, on est venu, puis on va revenir un petit peu durant l'été là, pour voir la gang.
Hey, je veux pas trop abuser de ton temps, Patrice. T'es bien gentil d'avoir pris quelques minutes, mais moi, j'ai un souvenir précis d'un Patrice Bergeron à 18 ans qui vient nous voir. On travaillait dans une autre station de radio le matin à l'époque. Tu venais d'être pêché par l'organisation des Bruins de Boston. T'avais de l'air timide, t'avais de l'air d'un gars qui était content, mais... J'essaie de m'imaginer, je comprends que ça prend de la confiance puis de l'assurance pour jouer dans la Ligue nationale de hockey. Étais-tu capable de voir le tracé de la carrière que tu as eue? Te voyais-tu devenir capitaine de l'organisation des Bruins, gagner une Coupe Stanley, faire toutes ces années-là dans la Ligue nationale?
C'est une bonne question. Je pense que j'ai toujours un peu... J'ai toujours fait confiance en traçant mon chemin par moi-même, en y allant d'étape à étape. Je pense que j'ai jamais voulu sauter justement ces 10 étapes-là. Puis en même temps, j'étais conscient que la marche était haute à chaque fois, puis que j'étais jamais satisfait non plus, tu sais, d'une année, une saison à l'autre, je voulais toujours m'améliorer, je voulais toujours repousser mes limites. Puis je pense que c'est peut-être ce côté-là qui m'a aidé. Par contre, je pense que j'avais pas nécessairement d'attente. En tant que jeune de, disons, 12, 13, 14 ans, qui a un rêve, qui est d'éventuellement atteindre la Ligue nationale, je pense que c'est juste de jouer, mais sans vraiment savoir c'est quoi. Après ça, c'est quoi qu'on veut, on le sait pas. Donc, ce chemin-là, on le trace un petit peu à l'aveugle une fois qu'on y est rendu. Puis, évidemment, je suis très reconnaissant, j'ai beaucoup de gratitude envers le chemin qui m'a été tracé, si on veut. J'ai eu la chance d'avoir des personnes extraordinaires qui m'ont aidé, tant dans ma famille, mes amis, mais aussi au niveau de l'organisation des Bruins, des joueurs qui ont eu des impacts incroyables pour moi, pour pouvoir me rendre où ce que je me suis rendu, puis pouvoir vivre aussi les expériences que j'ai pu vivre tout au long de ces années-là.
Patrice Bergeron, merci infiniment. Félicitations, tu le mérites pleinement. Convaincu qu'il y a plein d'autres honneurs qui s'en viennent pour toi dans les prochaines années. Puis nous autres, ben ici à Québec, tu sers d'exemple extraordinaire pour nos enfants qui trippent sur le hockey. On sera éternellement reconnaissants de ça.
Bien, merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Puis à tout le monde au Québec, j'espère que tout le monde va bien.
Merci Patrice, mon capitaine. Bonne fin de journée. Bye-bye.
Toi aussi, merci.
Patrice Bergeron, son numéro s'en va dans les hauteurs du TD Garden.
C'est chaud?
Oui, pas mal.
Il enlève sa calotte, il s'essuie.
La générosité à chaque fois.
C'est fou, hein?
Denis fait bien ça, mais oui, Denis, il est fafane, mais tu fais magnifiquement bien ça, puis... Il y a une générosité avec
c'est
toi fou, à chaque fois. Je trouve ça vraiment cool.
Oui, c'est le fun. C'est le fun. Pour vrai, c'est un beau privilège. Merci à Audrey qui a travaillé dans la dernière heure et demie là, à faire en sorte qu'on puisse parler avec Patrice. Et merci aux entremetteurs aussi. Là. Beaucoup, probablement qu'il y en a un à l'écoute en particulier. Là.
Salut Bruno qui est assez une machine dans ce temps-là.
c'est super, super le fun. Donc, il y en a qui présument que ça va être dans un match où le Canadien sera le visiteur du côté du TD Garden. Pour moi, c'est un peu logique, ben là, oui. Ça va de soi. Dès qu'on connaîtra la date et...
Tu vas t'acheter des billets.
Ça me tente. Je vous raconte rapidement une anecdote qui montre à quel point Patrice Bergeron est un grand type. De toute façon, vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir. Quand on a fait une entrevue dans le cadre de la classique...
C'est les pro-âmes. Là.
Le pro-âme, ouais. Le pro-âme gagné Bergeron, mm-hmm. Effectivement.
C'était il y a quoi, 3 ans? C'était en 2023?
Oui, il y a quelques années de ça, j'avais parlé de mes kids pendant une entrevue à Patrice Bergeron, puis j'ai rien demandé. Là,
non, t'sais. Zéro.
Sauf que quand l'entrevue s'est terminée, Patrice Bergeron a demandé au responsable du tournoi, il dit « Hey, Denis, il parlait de ses kids, ils ont le goût de me rencontrer, prendre une photo avec moi, organise ça, puis ça va se faire. » Et ça s'est fait.
Ouais.
Puis tu sais, mon grand joue au hockey, il rentre dans un programme de hockey scolaire l'an prochain. Je suis convaincu que cette rencontre-là, c'est la bougie d'allumage qui a fait en sorte qu'il s'intéresse à ce point-là au hockey. T'sais. Les vedettes, pour vrai, les joueurs de la Ligue nationale sont pas tous conscients de l'impact qu'ils ont sur nos jeunes. Puis ça, ben moi, pour l'avoir vécu aux premières loges, là, pour la première fois en tant que papa de 2 tripeux de hockey. D'ailleurs, j'ai très, très hâte de voir mes gars tantôt pour leur dire « Papa a parlé à Patrice Bergeron! »
Ton plus jeune, cette semaine, se promenait avec son T-shirt de Patrice.
C'est vrai, quand il est venu ici, il avait son chandail de Patrice.
Je demandais pourquoi il avait mon nom de famille dans le dos. Il m'a regardé comme une tout croche. Là.
Fait que pour les gens qui viennent de se joindre à nous, ben on parlait à Patrice Bergeron parce que son numéro va être retiré par l'organisation des Bruins. Il sera le 14e joueur des Bruins de Boston avec son numéro dans les hauteurs du Garden. C'était son tour, le dernier qu'ils ont retiré, c'est Zdeno Chara. Ouais.
D'ailleurs, si vous venez juste de vous joindre, là, je vais vous sortir l'entrevue dans les prochaines minutes. Ça va être disponible aussi sur la chaîne YouTube de Boulevard.
On s'arrête quelques instants et on revient. C'est Gravel dans le retour. Difficile de partir mieux que ça. Gravel. Comme prévu, la pluie se poursuit. Pluie parfois forte, 15 à 25 mm d'accumulation. D'ici la fin de la journée, toujours venteux, des rafales à 50 km/h. Et on en rajoute des millimètres de pluie ce soir et cette nuit, entre 30 et 40 mm au cours de la nuit, avec un minimum à 13 degrés, donc un mercure qui bouge pas beaucoup. On est à 14 présentement à Québec. Les averses se poursuivent demain et également samedi. Je veux pas être prophète de malheur, mais on a un 60 %
de probabilité d'averse également pour la journée de dimanche. D'ici 18 heures, on va faire une autre finaliste pour peut-être gagner demain la paire de billets avant-scène pour aller voir Limp Bizkit sur les plaines d'Abraham dans le cadre du festival d'été. On va vous remettre également des verres et des dégustations pour le festibiaire de Lévis parce que rapidement, faudra oublier cette température merdique pour nous diriger vers l'été, vers le Quai Paquette du 25 au 28 juin prochain. Audrey, comment ça a été hier?
Hey, ça a bien été.
Ouais.
C'était vraiment une super belle soirée pour vrai. Les gens étaient contents d'être là. C'est autour de 30 000 $ finalement que Jeff était capable de remettre à la clinique Ovel qui aide les adolescentes et les adultes, les femmes en fait, à avoir un médecin, des soins, les femmes défavorisées. Fait que ça a été une super soirée tripante avec plein d'artistes qui sont venus chanter. Richard Dionnes était là.
Ben oui.
Hello Derry est venu faire une toune. Il y avait plein d'artistes comme ça qui ont popé au travers de la soirée, puis les gens ont embarqué, c'était vraiment hot.
Avec Big Muff en performance acoustique. Et ben bravo à Jeff Fortin. Je lui disais ce matin, tu sais, l'effort qu'il fait par rapport à son ami qui est décédé tragiquement trop jeune. Il y a beaucoup de gens qui, pour passer à autre chose, vont juste poursuivre leur vie. Tu sais, on est un petit peu égoïste dans ces affaires-là, puis moi, je me mets au rang des coupables. Je veux dire, quand j'ai vu qu'Arthur, ça allait bien aller, j'ai décidé d'aller de l'avant, puis de m'occuper de mes petits gars, puis tout, mais quand je vois des gens qui continuent de s'impliquer, tu sais, la Fondation en cœur, le Fonds philanthropique de Jeff, ce genre d'initiative-là, j'ai tellement d'admiration et de respect pour ces gens-là qui disent, moi, la vie m'a touché, puis je décide de redonner de cette façon-là. Fait que merci du fond du cœur à tous ceux qui étaient là hier soir, juste en bas ici à la scène Le Bourgneuf. Je suis sûr que vous avez eu un bon show. Le show unplugged de Big Muff est exceptionnel.
J'ai envie de vous dire aussi, allez donc suivre la page du Fonds philanthropique Catherine Guillet.
Pour les activités.
Oui,
les...
il y en
oui,
a
absolument.
Plein. T'sais, Jeff a fait carrément une soirée NSPW de lutte. Là, c'était un show. Il fait toutes sortes de patentes pour ramasser justement des sous. Puis il garde son amie vivante par le fait même, ce que je trouve admirable aussi. Puis honnêtement, les soirées sont vraiment tripantes. Fait que, t'sais, tant qu'à dépenser des sous, souvent les billets sont vraiment pas chers. Ben, en plus, tu le fais pour une bonne cause. Fait que ça vaut la peine de surveiller ce qui se passe.
D'ailleurs, il y a des extraits du spectacle qui se promènent un peu partout sur les réseaux sociaux.
Oui.
Si vous voulez entendre Audrey chanter. Là, tu commences à connaître ta toune.
ça me fait tellement rire parce que c'est, hier, on a
tu fais tout le temps
ça
même,
le
hein?
classique.
Ben oui,
ben,
c'est ça.
Drôle parce que quand les gars m'ont dit « T'as-tu le goût d'embarquer pour le show à Jeff? » Ben oui. Puis là, j'ai demandé, tu sais, on fait ça encore la même? Ah oui, on fait la même, on garde le 7, ça marche, ça fonctionne. OK.
Eh hey, bonne cette là, on va en faire.
Ben oui, mais hier, c'était la première fois que j'étais relativement pas stressée puis que j'ai vraiment eu du plaisir, tu sais. Mais je pensais aux artistes qui doivent faire leurs chansons pendant des années et des décennies. Puis qui sont écœurés un moment donné. Parce que moi, mettons, Nothing Compares to You, c'est la version de Chris Cornell qu'on reprend. Il y a un moment où je la filais profondément.
Puis là, t'affiles de moins en moins parce que t'es habitué?
Ben un, je suis habitué. Puis deux, elle s'applique plus nécessairement à ma situation de vie. Fait que. Puis c'est pas moi qui l'ai écrite, elle m'appartient pas cette toune-là. Fait que j'imagine même pas quand t'écris une toune parce que tu vis un moment rough, t'affiles solidement, tu l'interprètes avec tes tripes, mais 10 ans, 20 ans plus tard, ben cette situation-là est passée puis tu le ressens plus nécessairement, ça doit être plate.
Puis tu peux même en arriver à haïr une toune que t'as créée puis qui a été un succès. Ben,
c'est pas Radiohead
ben,
qui...
C'est l'exemple le plus connu. Pendant des années, Radiohead s'est obstiné à refuser de jouer Creed
ce qui est une
en
tragédie.
Show. Ben, puis c'est un peu ça, tu sais, le band dit, moi, je la file plus, cette toune-là, mais les gens qui sont là la filent et veulent la filer, puis je sais pas où me placer par rapport à ça, tu sais, les Rolling Stones, entre toi et moi, là, quand ils partent, bam, 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 bam. Je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de feeling sur la scène. Tu sais, une toune écrite en 1965 ou 66, qui ont fait à toutes les soirs, qui ont fait des shows pendant 70 ans.
Il y a une chose, t'sais. Par exemple, que je me dis tout le temps, c'est si tu files plus la toune, et au moins la reconnaissance de ta toune. Parce que pour plusieurs...
Là, t'as un point, là.
Tu sais, c'est une toune qui t'a mis sa map.
Il y a quelqu'un qui est ici pour la première fois ce soir...
puis c'est sa tonne à lui ou à elle.
T'as découvert par cette chanson-là, mettons. Mm-hmm.
Puis toi, ça te permet de jouer tes autres tonnes.
Aujourd'hui, ça te permet d'être populaire.
Pour lesquelles t'as peut-être plus d'amour. Mais sinon, ces tonnes-là seraient dans l'ombre.
Chaque job, peu importe, dans le volet artistique, dans le volet plus manuel, a un bout de plate. Puis ça, pour moi, pour les artistes reconnus mondialement, ou même au Québec, peu importe, ça fait partie de la job. Les entrevues, des fois, c'est plate pour les artistes, puis jouer tes tunes que t'es plus capable de jouer. Mais hier, j'ai quand même eu une pensée parce que je me disais, tu sais, moi, je suis personne, là, tu sais, puis j'ai
ça fait 3-4 fois que je la fais, puis c'est déjà plus pareil.
Puis déjà, je suis plus stressée parce que je la connais, puis que je la file plus. Mais je trouve que ça change une interprétation, mine de rien, tu sais. Okay. J'avais Dom Pelletier en entrevue ce matin de Caravane qui a lancé sa carrière solo officiellement en avril, puis qui sort sa deuxième tune demain. Puis on jasait de ça, puis... C'est ça qu'il disait, là. Tu sais, tu te fais un devoir comme artiste de continuer de la faire parce que t'as une reconnaissance à avoir envers une toune.
Les gens sont là à cause de cette chanson-là.
Ça vous est déjà arrivé de voir un de vos artistes que vous aimiez, puis votre toune, qui est peut-être qui est une toune populaire, on s'entend, là, qui n'est pas une deep track, qui n'a pas été jouée?
Ben, niaiseusement, Creep Radiohead. Moi, je suis allé voir des shows de Radiohead
où
ils l'ont pas joué, absolument. Ben oui, au Parc Jean-Drapeau.
C'est tellement plat.
Ben oui, ça tue un peu quand ça arrive.
C'est comme la beauté puis le côté mauvais de la musique parce que il y a des gens qui découvrent certains classiques pour la première fois puis ça s'adapte à leur situation de vie actuelle puis ça prend une ampleur démesurée, tu sais. Fait que pour ces gens-là, dans ma tête, il faut que tu aies le respect de continuer, mais j'ai vraiment une pensée pour les artistes.
Vu qu'on est dans la musique, vous dire que la Saint-Jean-Baptiste s'en vient à grands pas. D'ailleurs, tantôt, on va lancer un nouveau duel du combat des tunes Made in Québec, faites au Québec. Et pour la fête nationale, Nathan Meilleur va vous proposer une émission spéciale entièrement consacrée à la musique d'ici. Ça s'appelle 30 ans de Saint-Jean, de 1996 à 2026. 4 heures, pas de pause publicitaire. 3 décennies de musique québécoise. Fait que vous allez avoir les colocs, Harmonium, Charlebois, Piché, Rock Voisine, Les Bébés, La Chicane, Daniel Boucher, Sarah Dufour, Noir Silence, Lily Fatal, Mes Aïeux, Malajube, Les Trois Accords, Lisa Leblanc, Émile Bilodeau, Galaxy, Sale Barbe et ainsi de suite. Une grande rétrospective qui va retracer l'évolution de la musique québécoise des 30 dernières années. 30 ans de Saint-Jean, on vous présente ça le 23 juin à partir de 19h et le 24 juin à partir de 16h, une présentation d'UniCanva qui crée votre espace de vie extérieur sur mesure avec des toits permanents ou rétractables, des murs ou des verrières. Vous vivez l'été confortablement en toute liberté. UniCanva.com.
On parlait des groupes qui ne jouent pas la toune que tu attends. Louis Gabriel me rappelle un moment difficile.
Lequel?
Celui où le même soir, Weezer puis Billy Talent étaient sur la même scène un après l'autre.
Ah, ben oui, puis
ils ont
fait la
tourne.
Ils
n'ont pas fait End of Me.
Oh, c'est vrai. Hey, on avait-tu parlé de ça? En plus, ça venait de sortir il n'y a pas longtemps. J'étais tellement en cave.
Je viens de ressentir la même rage
C'était frustrant,
que j'ai ressenti ce soir-là.
Écoute, c'est la même affaire. Je suis allé voir Caravane, puis Mike Cherona, ils la font pas.
Denis. Tu l'as quand même en
studio. C'est drôle parce qu'on a jasé un matin, puis il était comme, mon petit compte épingle fait en sorte que, il dit, il y a des gars dans les régions là, qui sortaient la palette. Combien tu veux pour la faire,
ben,
Mike
c'est
Cherona?
C'est sûr.
Mais tu sais, il est reconnaissant parce que ça a fait en sorte que certaines personnes l'ont connu, mais quand même, que tu dois tellement être écœuré.
Tu sais, quelqu'un qui nous dit souvent, Bon Jovi fait pas Bed of Roses. Tu sais, une fille qui va voir Bon Jovi, à Satan, à l'avoir. À du dernier show avec Richie Sambora en plein jour de la Saint-Valentin, ils l'ont fait.
Ouf.
Fait que des fois, tu tombes sur ta toune, puis des fois, ben tu perds à la loterie.
C'est Muse qui a tout le temps 2 tounes dans leur show qui changent. Mm-hmm. Puis eux autres, ils vont chercher des vieilles tounes une fois de temps en temps, puis c'est de même que j'étais tombée sur Stockholm Syndrome qui faisait pas tout le temps. Hey, j'étais heureuse, là, je m'attendais zéro à ça. Je l'aurais même pas mis sur ma bucket list.
Ah oui, puis c'est le fun quand tu vas voir un band, puis t'es capable de pas regarder qu'est-ce qu'ils vont jouer. Puis moi, je vous l'ai dit, j'ai terminé ma bucket list musicale récemment. Puis t'écoutes un band pendant 25 ans, t'as jamais l'opportunité d'y voir. Puis je suis allé voir Archive, un de mes bands préférés, pour la première fois il y a pas longtemps à Montréal. J'avais pas regardé le setlist. J'ai fait « Oh yes! » au moins 6 fois dans le show. Tu sais, genre, dans ma tête, « OK, ce tune-là, ils affront pas. Ce tune-là, ils affront pas. » Bien, ils ont tout fait.
J'aime que ce soit une
fun,
boîte
ça.
À surprise. Oui, c'est pour ça que je me garde le plus pur possible des artistes que j'aime puis de leur setlist.
Rush est en train de gâter les amateurs parce qu'ils ont fait un setlist qui change presque à tous les soirs. Puis les 4 premières soirées, ils ont joué des tunes qu'ils n'avaient pas joué des fois depuis 20, 25, 30, c'est 35 fou, hein? ans. Ils ont profité de la petite jeune au drum pour se challenger mm-hmm. énormément puis apprendre beaucoup de tunes. Fait que c'est le fun. C'est le fun quand ça arrive. T'sais.
Il y a un an, je me préparais à m'en aller en Angleterre pour aller voir Oasis.
Ouais.
Peux-tu dire que s'il y a cette liste que je voulais pas voir, c'était bien celui-là?
C'est-tu vrai qu'Aerosmith sur les plaines n'a pas fait « I don't want to miss a thing »
Bien possible.
Jamais.
Ah oh, ouais.
C'est très rare qu'ils font cette chanson-là.
C'est insultant.
Très, très, très rare. C'est une toune qui n'est pas d'une toune d'album, qui est d'une trame sonore de film. Puis même si elle a eu un succès, eux autres, ils considèrent que c'est pas un aussi grand succès que leur succès d'album.
Je savais pas que c'était juste une toune de film.
Oui, c'était pour Armageddon.
Ben voyons donc, toi.
Pourtant, tu sais, à partir du moment où c'est une de tes tounes, sinon la toune qui a eu le plus de succès dans ta carrière.
Plus grande que grande.
Pousse-la, tabarnouche. Quand je suis allé voir Coldplay à Montréal en 2017 et qu'ils ont joué Don't Panic, toune que je me disais que j'allais jamais entendre live, je capotais. Ça, le feeling est incroyable. Tu sais, oui, le feeling, ah, ils ont pas joué ma toune. Mais quand ils jouent ta toune puis que tu t'attends pas c'est à ce qu'ils jouent ta toune, ça, ça n'a pas de prix. 14h48, courte pause. C'est Gravel dans le retour, sous la pluie, mais on va vous aider à passer à travers jusqu'à 18h.
Pour joindre l'équipe, Gravel dans le retour, ça gagne à être connu.
OK.
Je vous en avais glissé un mot en début de semaine et les médias se sont emparés de la photo qui fait le tour du monde où Angine de Poitrine pose fièrement avec Shania Twain. Ce sont les invités canadiens de l'émission Later with Jules Allen qui a été enregistrée au début du mois en Angleterre et qui sera présentée pour la première fois à l'univers le 21 juin prochain. Très, très hâte de voir la performance des deux boys de Chicoutimi déguisés en boîte de carton.
Moi, j'ai hâte de voir la réaction de Jules Allen.
Ah, il va triper sa vie. C'est un musicien, écoute. Puis il a œuvré un petit peu dans le jazz et ainsi de suite. Moi, j'ai l'impression qu'encore une fois, Angine de Poitrine va gagner et gagner des fans supplémentaires à travers le monde. Et c'est ce qu'ils font présentement le tour du monde. J'avais lancé la possibilité d'une entrevue. Dans quel univers, en 20 minutes, on peut booker Patrice Bergeron et attendre des mois et des mois avant de pouvoir échanger d'une façon ou d'une autre avec Angine de Poitrine?
C'est tellement drôle parce que la personne qui s'occupe d'Angine de Poitrine en ce moment est la même personne qui s'occupe de Dom Pelletier.
À qui vous avez parlé ce matin.
Effectivement.
Okay.
Fait que c'est elle qui m'a envoyé les informations pour l'entrevue ce matin. Puis je me suis vraiment dit, bon... Là, il faut que je trouve un moyen de moyenner qu'on aille ça plus vite. Écoute, dans nos cartes, on avait potentiellement l'automne, mais à capote. Ça a tellement explosé vite. Là, c'est tellement en train de virer international.
Je me demande combien de temps ça peut rester à ce rythme-là. Parce qu'ils sont viraux.
Ça,
là.
C'est l'autre affaire.
Il y a, oui, une certaine popularité, mais ils sont une saveur qui, là, est persistante. Mais combien de temps ça peut durer?
Ben là, ils travaillent là-dessus. Là. Ils travaillent à une stratégie. Puis c'était un peu ça le point de... On peut pas se mettre à tout accepter les entrevues là pendant le buzz. Faut essayer de penser, ouais. Là, tu sais.
Puis je sais que le gérant a commencé à donner plusieurs entrevues. Puis le gérant, il est bien fin, mais moi, c'est pas à lui que je veux parler. Je veux trouver une façon de faire une entrevue ouais. originale
ben oui.
avec les gars d'Angine de Poitrine. Combien de temps ça peut durer? Écoute, je pense que c'est deux kids qui ont la tête sur les épaules.
Absolument.
Je pense que leur équipe de gestion voit ça de façon très lucide aussi. Je me demande s'ils considèrent pas comme un faux pas la présentation à Tout le monde en parle. Parce que c'est pas à ce public-là qu'ils s'adressent, tu sais. Puis ça leur a amené une vague négative qu'ils n'avaient pas besoin. Et ceux qui font le lien entre une présence à Tout le monde en parle et leur présence à l'international, ça n'a rien à voir. Je pense que c'est une musique qui parle d'elle-même. J'ai fait réaliser à ma sœur en fin de semaine, j'ai envoyé un texto. Ma sœur travaille à Télé-Québec, au Saguenay, et avant que le buzz explose, c'est elle qui m'a fait découvrir Angine de Poitrine parce qu'elle a filmé le meilleur clip d'Angine de Poitrine. C'est la performance de Sarniaise, qui est une des chansons d'Angine de Poitrine sur le deuxième album.
Sont-ils d'un champ, c'est ça?
Ils ont filmé ça d'un champ au lac Saint-Jean, puis l'autre moitié, ils ont filmé ça à l'Opéra, la microbrasserie L'Opéra. Fait qu'ils jouent dans la salle de cuve, puis ils ont demandé à des gens de venir pour être figurants dans le clip. Puis les gars d'Angine de Poitrine sont arrivés, puis ils avaient fait des chandails puis des chapeaux à tout le monde. Puis ils leur disaient, mettez les chandails, mettez les chapeaux, puis connaissez-vous nos tounes? Il y avait à moitié qui ne connaissaient pas les tounes, peut-être même plus. Puis ils disent, regarde, faites juste danser, faites ce que vous voulez. Danser, puis on va y aller. Puis ma sœur a filmé ça dans une salle de cuve, ça a de l'air qu'il faisait chaud comme ça se peut pas.
Seigneur.
Et quand Angine de poitrine a explosé. Ça a été très long avant que Télé-Québec se réveille puis qu'ils mettent cette performance-là sur YouTube. Depuis qu'elle est disponible sur YouTube, c'est des millions de vues. C'est le clip de Télé-Québec et de loin qui aura été le plus vu de l'histoire de Télé-Québec.
C'est ta soeur qui a filmé ça.
Puis c'est ma soeur qui a filmé. Puis je dis en fin de semaine, j'ai dit Sylvie, te rends-tu compte que le gars de Kiss, le gars de Dream Theater, le chanteur de Def Leppard, puis Dave Grohl, ils ont tous regardé ton vidéo.
C'est bien trop vrai.
C'est malade.
Parce que s'ils trippent assez sur le band pour avoir vu la performance à KEXP, là, ben c'est sûr qu'ils ont regardé le vidéo de ma soeur. Jack White a regardé ton vidéo, c'est
Je vais aborder le volet un peu plate, mais par curiosité, sais-tu comment ça fonctionne dans ce temps-là? Elle, a dessus des... Tu sais, quand des vidéos comme ça explosent,
oh, non,
des redevances?
Absolument pas.
Fait qu'elle a juste vécu une sacrée belle expérience. Ouais. Ça peut dire que c'est elle qui est derrière ça,
ben
mais
oui.
Rien de plus.
C'est ça, exact. Elle, a faisait ça pour la Fabrique culturelle, qui est le volet régional, si vous voulez, de Télé-Québec. Mmh. Puis à partir du moment où il y a des vues, je sais qu'il y avait des aspects légaux à régler, je pense. Pourquoi tout est plus compliqué à Télé-Québec qu'ailleurs? La question implique peut-être un peu de la réponse. Mais, tu sais, à un moment donné, ils sont tannés et ils se sont dit, bon, là, on va le mettre. Là.
Hey, les gens qui dansent, je ne l'avais jamais vu.
Tu l'avais jamais vu?
Jamais.
Écoute,
j'avais vu les premières images, mais je ne m'étais jamais rendu au cul avec les gens avec les chapeaux. Là. C'est quand même drôle.
Ma sœur est revenue du tournage de ça, puis j'étais chez elle cette fin de semaine-là, puis elle a dit, je pense, toi, tu vas triper là-dessus solide, puis elle me fait voir cette vidéo-là, puis j'ai fait tout de suite, OK, les déguisements, je suis pas sûr. Mais la musique, par exemple, c'est hot en tabarnouche. Quelques semaines plus tard ou quelques mois plus tard, il était à Place Duville pour un show gratuit dans le cadre du festival d'été. J'étais allé avec mes mousses. C'était le soir de Fred's puis de Big Flo et Oli. Fait qu'on a regardé Angine de poitrine. C'était comme le deal que j'avais avec mes enfants. Vous venez endurer Angine de poitrine avec papa? Puis après ça, on va monter ses plaines, puis je vais aller voir Fred's avec vous
Mon
autres.
Mon plus gros regret, c'est qu'on n'ait pas pensé les pitcher avant. Parce qu'on les a pitchés la semaine de Tout le monde en parle, puis c'est effectivement le point tournant où ils ont décidé de reculer
au Québec.
Les entrevues.
Ouais, c'est ça.
Fait que tu sais, je me dis, Christy, qu'on aurait pu vivre quelque chose de le fun, puis je suis confiante qu'on va finir par les avoir. La question, c'est quand?
Je trouvais que j'avais eu une bonne idée, puis je sais que c'est compliqué, mais si on avait réussi à faire l'entrevue dans leur langue, puis la faire doubler par des voix d'ici, parce qu'on a quelques voix qui sont quand même assez sympathiques, on aurait pu réussir à faire quelque chose de le fun. Là,
oui.
Hein? Puis on aurait évidemment tourné ça, puis on aurait pu mettre ça sur nos affaires YouTube
je
aussi.
Je confiance. Moi, j'ai hâte à l'entrevue après.
Ah, quand les gars vont arriver, pas de costume. Là.
Oui. Ouais. Je veux comprendre ce processus-là. J'ai hâte de savoir comment ils ont trouvé ça. J'ai un milliard de questions que là, je pourrais pas leur poser.
T'sais, ça sonne vraiment, on voulait faire nos premières parties, puis on s'est dit, hey, on essaie de quoi?
Ben,
c'est tout ça qui m'intrigue.
C'est pas mal ce qu'ils ont fait, mais comment peux-tu